France Musique.
Merci Christian Merlin et à la semaine prochaine. C'était bien beau, ma foi, l'opéra de jadis. Certains gardent encore la nostalgie de ces temps où le public enthousiaste, à Marseille ou à Toulouse, pouvait chanter tous les airs de Faust, mais aussi, quand ce qui se passait sur scène ne lui plaisait pas, il balançait rageusement des tomates ou des salades de saison. La métamorphose de ces maisons d'opéra de province en grandes maisons internationales, notre témoin du mois y a assisté, il l'a même accompagné comme directeur du théâtre de sa ville natale. Mémoire d'opéra, Raymond Dufaux, deuxième en Avignon. Mirella Freni chantait ici cet air d'Elisabeth au quatrième acte du Don Carlo de Giuseppe Verdi sous la direction d'Herbert von Karajan à Vienne. Bonjour Raymond Dufaux.
Bonjour.
Pour notre deuxième épisode consacré à votre vie et à l'opéra tel que vous l'avez vécu, on commence avec Mirella Freni parce qu'il se trouve que ce Don Carlo, elle l'a chanté, vous lui avez fait chanter à l'opéra d'Avignon, c'était quand?
Oui, en 81, on avait fait 3 représentations de l'ouvrage fin juin, début juillet. C'était dans une superbe production que Jacques Carpeau, qui était à l'époque directeur de l'Opéra de Marseille, qui était un magnifique metteur en scène, avec qui j'avais travaillé d'ailleurs aussi à Orange. Donc on avait accueilli la production de Marseille sous la direction d'un chef italien qui était responsable de l'orchestre de Lugano à l'époque, qui s'appelait Lamberto Gardelli. Et donc c'était Mirella Freni avec Stefania Todgiska qui chantait Eboli, Giaurov qui faisait Philippe II, Veriano Lucchetti le ténor, et un baryton qui s'appelait Zancanaro avec Luigi Roni qui faisait le grand inquisiteur. C'était une distribution extraordinaire à l'époque. Et c'est vrai que le succès incroyable qu'avaient obtenu Freni et Giaurov est resté dans les mémoires à l'opéra. J'avais failli faire autre chose aussi avec elle parce que j'avais monté un Turandot 2 ans après avec Pavarotti, Caballé, qui chantait le rôle de Turandot, et Fréni devait faire Liu, puis elle l'avait annulé relativement au dernier moment. Mais j'avais eu la chance, parce que c'était assez formidable, de pouvoir la remplacer par Ricciarelli, ouais, qui était une voix magnifique, Katia Ricciarelli. En plus, elle était physiquement superbe. Et puis, on avait fait aussi un récital avec elle. Il y avait eu un autre récital avec Gaourov, d'ailleurs, une autre année. Mais c'est vrai que ce Don Carlo était absolument unique. Et puis, elle était dans avec Gaourov, ils étaient dans une forme vocale extraordinaire.
Mmh. Vous citez des noms absolument incroyables, là, Raymond Dufaux, même un peu légendaire maintenant. On rappellera que dans une maison de taille moyenne, comme l'Opéra d'Avignon dans les années 80, jusque dans les années 90...
On peut dire taille moyenne, parce que c'est une réalité. Oui.
On avait quand même tous les grands chanteurs internationaux.
Une ville moyenne, avec un opéra dans une ville moyenne. Ça a toujours été d'ailleurs le problème de fond. Comment arriver à entretenir une maison d'opéra en ordre de marche, avec tout ce que cela représente, les forces artistiques permanentes avec un orchestre, un chœur, un ballet, puisqu'on a réussi jusqu'au jour d'aujourd'hui à conserver un ballet, ce qui est devenu rare, puisqu'il n'y en a que deux en France maintenant dans les maisons d'opéra en tant que telles. Et c'est vrai que ça a toujours été un tour de force, que toutes les municipalités qui se sont succédées se sont posées la question de savoir s'il était raisonnable de continuer à entretenir une maison d'opéra avec un budget tel que celui de la ville d'Avignon. Heureusement, depuis quelques années, l'opéra est géré maintenant par la communauté d'agglomération qui est le Grand Avignon, qui repose donc d'ailleurs déjà sur une population de 200 000 habitants au lieu de 90 000 habitants, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vrai qu'Avignon a une notoriété exceptionnelle grâce évidemment à son patrimoine, grâce au festival, mais ça n'est qu'une ville de 90 000 habitants, donc une ville très moyenne au niveau démographique et la plus petite des villes en France qui entretiennent une maison d'opéra en ordre de marche.
La semaine dernière avec vous, Raymond Dufaux, on a refait votre histoire, votre enfance, l'entrée dans le métier, enfin les premières armes au Festival d'Avignon. On arrive donc là vraiment au cœur du sujet, pour ce qui concerne en tout cas l'opéra, c'est-à-dire l'opéra d'Avignon, dont vous prenez la direction en 1974.
Un peu par hasard, parce qu'on le disait la semaine dernière, je me destinais à un métier d'expertise comptable, ce qui était loin d'une direction de l'opéra, même si ça faisait 2 ans que j'étais à l'administration du Festival à Avignon. Et c'est le secrétaire général de l'époque, maintenant on dit directeur général des services, qui a été voir mon père et qui lui a dit « Mais moi, je trouve qu'il y a quelqu'un à qui vous pourriez faire confiance. » Alors, c'était pas une solution évidemment facile. C'est Raymond, qui est passionné d'opéra, qui suit tout ça, qui connaît ça par cœur, qui vient de faire 2 ans au festival. Moi, je pense qu'il faudrait lui donner. Donc, c'est ce qui a été fait. Ma nomination a été proposée au conseil municipal de l'époque, qui a accepté de la voter à l'unanimité. Et j'ai été flanqué, je pense, par mesure de protection ou par mesure de contrôle, d'un quatuor de contrôle la première année, qui était fait de Michel Leduc, l'ancien directeur, de Paul Puot, du directeur du festival, et de l'administrateur de l'opéra, puisqu'il y avait un administrateur sortant. C'était pas évident pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ben évidemment, c'est facile, c'est le fils de son père, il a tout ce qu'il veut et tout. Je pense que c'était pas du tout ça. Au contraire, c'était d'autant plus difficile. Je pense qu'il était important pour moi, d'abord, que j'avais les compétences de la fonction pour laquelle j'étais nommé, et puis il fallait que j'arrive à me faire un prénom, ce qui est loin d'être évident, surtout dans une ville de la taille d'Avignon.
Ça n'a pas été facile non plus artistiquement. La première édition, le premier spectacle même a été compliqué.
Compliqué, parce que c'est vrai que la programmation avait été faite par mon prédécesseur, par Michel Leduc, et il avait commencé, je me souviens de ça, parce que c'est un souvenir très précis, il avait commencé par programmer une comédie musicale au mois d'octobre, alors que c'était un mois où on ne jouait jamais, puisqu'on commençait à jouer fin octobre, début novembre à l'époque, et les comédies musicales n'étaient pas du tout à la mode, ça ne marchait pas du tout. Il avait programmé la Mélodie du Bonheur, c'était la première fois qu'on jouait ça à Avignon. Il avait programmé 8 représentations, ce qui ne se faisait jamais puisqu'on faisait 2-3 représentations, à part les grandes séries quand il y avait Mariano, Dassari, etc., ou Guettari, ou Bourville, ou Annie Cordy. Mais donc là, 8 représentations, avec, on a joué devant les banquettes, 7-8 représentations. Je me suis dit, si ça commence comme ça, bonjour
ça
pour la
paraît.
Suite. Et puis heureusement que les choses se sont redressées au fil des années.
Une manière de c'est les choses, c'est de faire venir des grands noms. Mais tiens, on va en entendre un de grand nom, enfin, une grande voix, celle de Montserrat Caballé. Le Vici d'Arte de la Tosca, chanté ici par Montserrat Caballé, que vous avez reçu bien des fois, Raymond Dufaux, à l'Opéra d'Avignon. Hein.
Oui, exactement. Oui, on avait noué un contrat d'amitié, je pense. Parce que c'est vrai qu'on avait construit des relations, au-delà de relations professionnelles. Oui, elle était venue notamment, puisqu'on vient d'entendre Vici d'Arte, elle était venue chanter la Tosca qui avait inauguré l'Opéra d'Avignon rénové en décembre 78 avec comme partenaire Giacomo Aragal, qui était un ténor absolument magnifique. Je crois que c'est l'un des plus beaux timbres que j'ai pu entendre, malgré le trac qui le paralysait souvent dans ses prestations, qui était terrifiant. D'ailleurs, pour cette Tosca, c'est pour ça que j'étais toujours installé au fond d'une loge, de manière à pouvoir immédiatement arriver sur scène au cas où il y aurait un problème, ce qui arrive de temps en temps quand même. Et à la fin de son premier air, qu'il avait plutôt bien chanté, mais il n'avait pas été content de ce qu'il avait fait, il était descendu de chez l'échafaudage puisqu'il était en train de peindre le tableau, et je le vois filer, j'ai bondi sur scène parce que j'ai dit, il se passe quelque chose. Et j'ai dit, où vas-tu? Il me dit, je rentre chez moi, je ne peux plus chanter, je m'arrête et tout. J'ai dit, ne raconte pas la messe, tu recommences sur scène et tout. Et à la fin du spectacle, il m'a dit, je rentre chez moi, je vais à Barcelone, il faut que je me repose. Et j'ai pensé d'ailleurs qu'il ne reviendrait pas faire les autres représentations. Et puis, chaque fois, il est revenu. Et voilà, c'était lui, ça, on savait que c'était ce risque-là avec Aragal. Et c'est vrai que Caballé, c'était quelqu'un d'exceptionnel, dont les sons filés, je pense, sont incomparables et personne ne les a jamais eus comme elle les faisait. Personnalité d'ailleurs qui était quand même extrêmement forte,
oui.
Parce qu'elle pouvait être aussi amicale, chaleureuse et cordiale que ce qu'elle pouvait être parfois assez vive et sévère.
Et ça changeait rapidement.
Ça changeait très rapidement. On le voyait ça au visage et aux yeux qui changeaient, mais en un quart de seconde.
Et qu'est-ce qui les faisait changer vers du mal en particulier?
Certaines fois, quand il y a une chose qui lui plaisait pas ou qui se passait mal, par exemple, je parlais de cette Tosca qui avait rouvert l'Opéra d'Avignon en décembre 78, à son entrée, donc ça l'avait, je pense, mise en de mauvaise humeur, en quoi elle n'avait pas tort, le rideau rouge s'est refermé juste au moment, à lâcher, et s'est refermé juste à son entrée. Donc déjà, c'était après, au deuxième acte, elle s'est pris les pieds dans le tapis à l'acte de Scarpia, donc ça n'allait pas. Donc à la fin de la représentation, qui quand même avait été un triomphe, on me dit, Madame Caballé, vous parlez. Quand on disait ça voulait dire qu'il y avait quelque chose qui ne... Alors je pensais qu'elle allait me parler des problèmes du rideau, du tapis, etc., de tout ce qui n'avait pas marché sur le plan technique. Et elle me dit, si ce chef qui dirige la seconde, moi je m'en vais. Ben, j'ai dit, Montserrat, ce chef, vous l'avez choisi, c'était Pierre-Michel Lecomte. Je vois, non, c'est pas possible, il peut pas diriger, moi je veux pas chanter avec lui, il m'accompagne mal et tout. Ben, j'ai dit, excusez-moi, c'est vous qui l'avez souhaité, puisque l'agent... avec qui j'en ai discuté, qui était le sien, m'avait dit que vous souhaitiez travailler avec lui, mais jamais je ne dis ça, jamais de la vie et tout, et donc elle a changé d'agent d'ailleurs dès le lendemain ou le surlendemain, et donc j'ai demandé à la personne qui était directeur musical de l'opéra à l'époque, puisqu'il y avait une direction musicale qui était Yvon Lénard, d'assurer la représentation. Il était un peu paniqué, parce que prendre Caballé au pied levé, sans l'avoir dirigé, après l'incident qui s'était passé, donc c'est lui, et puis ça, finalement, ça s'est très bien passé.
Sotto il petto.
C'était Patricia Cioffi qu'on entendait ici en Susanna des noces de Figaro de Mozart, dirigé par René Jacobs.
Mémoire d'opéra, Lionel Esparza, France Musique.
On viendra sur Patricia Cioffi, avec laquelle vous avez également beaucoup travaillé, Raymond Dufour, un peu plus tard dans cette émission. Oui. Mais je voulais qu'on parle un petit peu, puisque là, on vous a laissé quand même prenant, en quelque sorte, la main sur l'Opéra d'Avignon, sur les questions que ça pose dans les rapports, vous l'avez déjà un peu suggéré, avec une municipalité. Parce qu'un opéra qui est lié comme ça à une ville, les rapports sont directs avec le maire, avec les adjoints, avec tout ce monde politique, et c'est des rapports, on va dire, divers enrichissants dans les moments.
Les opéras ne dépendent surtout dans des villes moyennes. Les opéras nationaux sont un peu différent. C'est vrai qu'on dépend essentiellement, quasi exclusivement, de la ville ou maintenant des communautés d'agglomération, puisqu'il y a beaucoup de ou des métropoles. D'autant plus lorsqu'on est en régie municipale, ce qui est le cas encore de pas mal de maisons d'opéra, même s'il y en a certaines qui sont en association ou certaines autres encore en délégation de service public. Mais là, il y en a pas beaucoup, il y en a que deux. Mais c'est vrai qu'en régie municipale, c'est un régime extrêmement lourd et complexe administrativement, parce que rien ne peut se faire sans une décision prise au niveau municipal, avec les services de l'administration municipale, qui ne sont pas forcément très ouverts au fonctionnement particulier d'un opéra, parce qu'un opéra est pas un service, ne peut pas être considéré comme un service municipal, comme un autre, comme le service de l'état civil ou comme le service technique et tout. D'abord, on a des horaires extrêmement particuliers de travail, on a des contraintes extrêmement particulières. Quand on a quelqu'un à remplacer au dernier moment, il faut qu'on puisse faire un contrat au dernier moment, qu'on puisse organiser le voyage au dernier moment et tout, ce qui en régie municipale est extrêmement compliqué, parce qu'il y a je ne sais pas combien d'étapes où il faut faire des bons qui sont signés, co-signés, etc. Et puis les relations, évidemment, comme vous le dites, avec le secteur politique, puisqu'on en dépend directement. Moi, ce que j'ai toujours essayé de soutenir, c'est qu'à partir du moment où une ville, une municipalité a fait le choix de son directeur sur une période de données, je pense qu'il est essentiel que ce directeur ait une autonomie de fonctionnement, je ne dis pas une indépendance parce qu'on ne l'a jamais complètement, mais une autonomie sur cette période-là à l'intérieur du budget qui est mis à sa disposition, parce qu'autrement c'est absolument ingérable. Je ne citerai pas le nom de certaines maisons d'opéra où les choses se passent malheureusement comme ça, où le directeur est obligé de soumettre les titres qu'il souhaite donner à l'avis de la municipalité, de soumettre le nombre de représentations, ce qui est insupportable. Ce que je dis, c'est on fait confiance à un directeur, on le nomme, donc on doit lui faire confiance. Après, évidemment, si on n'est pas satisfait de la manière dont il a géré l'opéra, s'il y a eu des dépassements, des débordements budgétaires, on ne lui renouvelle pas son contrat, point barre, et on nomme quelqu'un d'autre. Mais je pense que le directeur peut être d'autant plus performant que si on lui laisse cette responsabilité, cette confiance.
Et si on parle de ces questions politiques, administratives, Raymond Dufour, c'est que c'est pas secondaire. Dans la vie d'un directeur d'opéra,
c'est fondamental.
C'est l'essentiel du boulot. L'artistique, ça passe...
Malheureusement, je dirais pas, c'est pas une chose secondaire, parce que c'est le cœur de vie d'une maison, mais en temps de travail, c'est extrêmement secondaire par rapport au fonctionnement général d'une maison.
Je répète.
Tinva Moula qu'on entendait ici en Michaela de Carmen de Georges Bizet et Michel Plasson, à nouveau qu'on a déjà entendu dans cette émission la semaine dernière avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, a fait partie des artistes. Tinva Moula que vous avez fait venir sur la scène, parfois pour des premiers rôles, parfois pas pour la première, mais quasiment.
Beaucoup de prises de rôle, oui, parce que Inva est d'origine albanaise. Et Michel Grotz, qui était l'un des agents les plus célèbres de l'époque, très ami avec Karajan, très lié au festival de Salzbourg, m'avait appelé en me disant j'ai une jeune chanteuse qui vient d'arriver d'Albanie, que je trouve absolument superbe, et pour pouvoir suivre à ses besoins, elle était rentrée dans les chœurs de l'Opéra de Paris. Mmh. Et donc il me dit, est-ce que vous pourriez l'auditionner à Avignon? Ben, j'ai dit, aucun problème, avec grand plaisir. Donc elle était venue, et je lui avais trouvé des qualités tellement formidables que je lui avais proposé de chanter sa première Violetta, puisqu'elle l'avait fait une fois comme ça en Albanie, mais dans des conditions un peu difficiles. J'ai beaucoup travaillé également avec avec elle à Orange, et c'est vrai qu'avec elle, on a fait un peu le même parcours qu'avec Patricia Tschioffi.
Ouais. Alors Patricia Tschioffi, Florian Lacconi, Karine Dehine, Vamula, Sophie Koch,
Béatrice Auriemonzon.
Aussi, on pourrait en citer beaucoup d'autres, bien d'autres. Oui. À un certain moment, vous faites venir
Alexia Cousin aussi.
Ah aussi, oui, qui a une carrière un peu éclair.
Éclair, mais qui était quelqu'un d'exceptionnel.
Vous avez fait venir beaucoup de monde comme ça, c'est vous qui les découvriez ou c'est simplement vous avez les oreilles et les coups de ce qui se passe dans le milieu musical des jeunes?
Je pense que le travail d'un directeur aussi, c'est une des fonctions essentielles. On parlait beaucoup de l'engagement administratif et financier qui pèse lourd dans l'emploi du temps, mais je pense que la majorité de l'emploi du temps, c'est d'aller entendre des chanteurs, d'aller les entendre à la sortie des conservatoires, des centres de formation supérieure de chant, aller voir des productions aussi, les entendre dans une production, parce que c'est bien de les entendre en audition, mais l'audition c'est un exercice difficile. Il y a des gens qui peuvent être très bien sur scène et être stressés en audition. Ça peut être aussi l'inverse, des gens qui savent mieux se vendre en audition que ce qu'ils peuvent être sur scène ensuite. Donc je pense qu'il faut aller les voir in loco, in situ. Et c'est vrai que c'est le travail, et c'est ce qui est passionnant d'ailleurs dans le métier qu'on fait. Bon, c'est un peu comme ça que j'ai découvert les chanteurs les uns après les autres, par le biais du Centre français de promotion lyrique dont on parlera peut-être aussi.
Alors justement, je voudrais qu'on en parle, Raymond Dufaux, et avant de parler du Centre français de promotion lyrique, du CNIPAL, ça c'était dans les années 80, vous avez découvert pas mal de monde, à Ludovic Thésier par exemple.
Exactement, oui, il y avait deux ou trois, au départ ça s'appelait le CIPAL, Centre d'insertion professionnelle d'artistes lyriques. Il y en avait un à Marseille et un à Strasbourg, à l'époque je pense qu'il n'y en avait que deux, qui étaient cofinancés par l'État et les régions concernées. Et le CNIPAL à l'époque était composé de deux sections, une section soliste et une section choriste. Il y avait une vingtaine de stagiaires comme solistes, sous la direction de Rita Streich, qui a été la grande mozartienne, l'illustre mozartienne que chacun connaît. Ça a été passionnant pour moi d'ailleurs de travailler avec elle, de discuter avec elle de tout son parcours, de ce qu'elle faisait. Et il y avait un très gros département chœur où il y avait 40 stagiaires. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, Béatrice Auriemonzon, que j'ai rencontrée là, qui avait 18 ou 19 ans, était dans le département chœur à l'époque, et non pas dans le département soliste. Ah oui. Elle avait les meilleures notes partout, sur le plan de la discipline vocale, la technique, les langues, le solfège, etc. Et c'est de là qu'elle a démarré et que je l'ai rencontrée. Et il y avait, comme vous le citez aussi, Ludovic Thésier, qui à l'époque n'était pas très costaud et n'avait pas très envie de travailler beaucoup le solfège, pas très branché là-dessus. Et quand on connaît maintenant l'exceptionnelle carrière qu'il fait, c'est pratiquement, je pense, le plus grand baryton verdien qu'on ait sur le plan international, et il a fait un parcours vraiment étonnant. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres, vous n'aurez peut-être pas imaginé au départ quelles qu'étaient ses qualités qui puissent faire la carrière qui est aujourd'hui la sienne.
À cause du solfège.
En partie. Mais c'est vrai qu'au départ, on parlait de certains chanteurs. Il y a des chanteurs qui ne connaissaient, à l'époque, on en parlait, il n'y a pas très longtemps quand même, qui ne connaissaient pas le solfège, qui ne savaient pas lire une partition, qui chantaient à l'oreille.
Ah ouais, à l'intuition presque.
Ah ouais, à la feuille.
Et aujourd'hui, c'est plus le cas, ça.
C'est plus le cas. Ça serait plus possible, ça.
Oh,
Un extrait d'Il Pirata, le pirate de Vincenzo Bellini, s'était chanté ici par Ludovic Tézier.
Mémoire d'opéra, Lionel Esparza, France Musique.
Raymond Dufaux, faire venir les jeunes chanteurs, les prendre au tout début, leur donner leur premier rôle, c'est très très bien. Mais on a bien compris que lorsque vous nous parliez tout à l'heure des tout débuts de vos années, les premières à l'Opéra d'Avignon, au début des années 70, vous faisiez venir les Pavarotti, les Caballé, les grands artistes internationaux assez facilement. Qu'est-ce qui s'est passé à un certain moment que ça a été plus difficile sous cet angle-là?
Oui, parce que je pense que... tout simplement, on parlait des questions financières, je pense qu'il y a eu une évolution assez rapide des cachets, qui au niveau des plus grands noms ont considérablement évolué. Ça a correspondu, alors je dis pas que c'est lié directement à la chose, mais ça a correspondu un peu au moment où Liberman a pris la direction de l'Opéra de Paris, oui, où il a fait des choses absolument formidables, parce que c'était un très grand professionnel, et je sais qu'Hugues Gall, qui a été l'un de ses plus proches collaborateurs, en parle avec beaucoup d'admiration et de respect, ce que je partage complètement, parce qu'il a fait des choses absolument sublimes à l'opéra. Il a fait de l'opéra ce que l'Opéra de Paris était devenu après des périodes un peu compliquées et difficiles. Mais c'est vrai que ce qu'on peut éventuellement lui reprocher, c'est d'avoir fait un peu l'impasse sur les chanteurs français. Alors c'est vrai qu'il y a eu une belle génération de chanteurs dont on parlait la semaine dernière, qu'il y a aujourd'hui une formidable génération, je pense, de nouveaux chanteurs, peut-être pas dans tous les répertoires, mais enfin qui donnent la possibilité quand même de monter pas mal d'œuvres et des gens qui font une carrière internationale. Mais c'est vrai qu'entre deux, et ça a un peu démarré de cette époque Liberman, il y a eu une génération de chanteurs sacrifiés qui sont un peu amers d'avoir été laissés un peu sur le bord de la route, sur le bord du chemin.
Cette période Liberman, on en parlait le mois dernier avec Hugues, justement, dans cette émission aussi, et on en tirait la conclusion que finalement, il y avait eu dans les années 70, autour de Liberman, à la fois la professionnalisation et puis l'internationalisation de l'opéra. Curieusement, vous nous racontez que en région, vous vivez ça, vous, carrément en direct, en même temps que ça se fait à Paris ou à quelques années
de décalage. Oui, c'est évidemment, ça. Oui. Ah ouais.
Et la professionnalisation, elle est passée aussi par les metteurs en scène. Est-ce que vous êtes adapté à ça aussi, ou avez été moteur d'une manière ou d'une autre?
Je dirais pas que c'est un passage obligé, mais on ne peut que tenir compte de cette évolution. Alors je pense que ça a été assez formidable qu'il y ait des metteurs en scène de théâtre qui s'intéressent à l'opéra, parce que je pense qu'ils ont apporté une nouvelle vision dramatique, dramaturgique, esthétique sur la manière de monter les ouvrages. On pense à Chéreau notamment. Villard, dont on parlait la semaine dernière lorsqu'il était directeur du festival, avait touché l'opéra, puisque à la fin de sa vie, on en parlait beaucoup d'ailleurs quand on discutait avec lui pendant les spectacles qu'on se retrouvait à l'Auberge de France, qui était son restaurant d'attache à quelques 10 mètres de la cour d'honneur du Palais des Papes. C'était le moment où il préparait le premier opéra qu'il mettait en scène à Vérone, qui était le Don Carlo. Qui avait été une révolution à l'époque, parce que Vérone, c'était un peu le carton-pâte, c'était beaucoup de décors très traditionnels, et lui, dans Don Carlo, il avait tout enlevé, comme il avait fait dans la cour d'honneur pour le théâtre parlé. Il avait une immense croix, et c'était le seul décor. Et je pense que si il avait pu continuer à vivre, mais 68 a été très dur pour lui, et je pense qu'a beaucoup compté ensuite dans sa disparition, je pense qu'il aurait été un formidable metteur en scène d'opéra. Et je pense que c'est un peu lui qui a été le précurseur quand même de la nouvelle aventure de l'opéra.
Parce qu'en général, on fait commencer ça
un peu plus tard.
Sans mettre son nom dans la généalogie.
Parce qu'il n'en a pas fait beaucoup. Et on oublie quand même un peu ce passage qui pour moi a été essentiel, comme il l'a été à partir du moment où il a été directeur du festival dans l'évolution du théâtre dramatique.
Thank you.
L'ouverture du trio L'Archiduc de Beethoven, joué par les membres du Beaux-Arts Trio, c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours, Raymond Dufaux, mais l'Opéra d'Avignon, dans la quarantaine d'années, vous y êtes retrouvé comme directeur. Il y a eu beaucoup, beaucoup de musique de chambre. Hein.
Beaucoup, ça tient essentiellement à une tradition très forte, qui est rare d'ailleurs dans le domaine de la musique de chambre en France, parce qu'il y avait une personne qui avait créé, dans les décennies plus lointaines, une société de musique de chambre qui marchait formidablement bien, qui s'appelait la Société Avignonnaise des Concerts, dont les concerts se déroulaient à l'époque dans une salle de cinéma avant que les cinémas ne soient tronçonnés en petites salles. Ouais. Et on la considérait un peu comme la papesse de la musique de chambre en France, parce qu'elle était très amie avec tous les plus grands solistes, les plus grands interprètes. Elle était amie intime notamment avec Francis Poulenc et Pierre Bernac. Et d'ailleurs, ce qu'on sait moins, c'est que Francis Poulenc avait écrit l'un des actes des dialogues carmélites chez elle, un été dans sa villa à Villeneuve-les-Avignon. Donc c'est comme ça que j'avais connu Poulenc d'ailleurs, et que je suis très attaché aux dialogues carmélites, que j'ai monté plusieurs fois. Et c'est vrai qu'elle avait, à l'époque, elle avait une tel dynamisme, un tel engagement pour la musique de chambre, qu'elle avait plus d'abonnés que ce que contenait la veuve de la salle. Et puis, quand le cinéma a été découpé en tranches, elle m'a appelé, elle m'a dit « Je suis désespéré, je peux plus faire des concerts. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse ça ensemble à l'opéra ?» Voilà, où à l'époque, il n'y avait pas de musique de chambre, puisqu'on voulait pas du tout entrer en concurrence. Et puis, c'était pas forcément ma tasse de thé et mon parcours. Et je dois dire que c'est Simone Girard qui m'a fait beaucoup apprécier la musique de chambre, aimer la musique de chambre. Et donc, au départ, j'ai travaillé avec elle, et puis ensuite, malheureusement, elle est disparue. Et j'ai souhaité maintenir cette tradition forte de musique de chambre, ce qui nous a permis d'avoir tous les plus grands interprètes qui sont passés les uns après les autres, que ce soit en piano, en violoncelle. Il y a Yo-Yo Ma qui avait fait ses débuts à l'époque. Il y a quelques années, on avait eu Lang Lang, par exemple, alors que personne ne le connaissait, Kissin. Ensuite, on avait fait beaucoup d'intégrales avec avec le Beaux-Arts Trio, avec qui j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. On a fait l'intégrale des trios de Beethoven, l'intégrale des trios de Schubert. On a même fait l'intégrale des quatuors de Shostakovich avec le quatuor de Bussy. Donc une programmation assez pointue. On a la même de faire des choses contemporaines. On a monté Inori de Stockhausen. On avait fait le Pierrot Lunaire avec une équipe à l'époque qui regroupait Augustin Dumay, Alain Marion à la flûte, Portal, Pasquier à l'alto, enfin Daniel Bourg au cor qui était un avignonnais, Maurice Bourg qui était avignonnais aussi, qui a été l'un des plus grands oboïstes que nous ayons, qui était à l'époque le hautbois solo de l'Orchestre de Paris. C'était l'époque où Malgloire d'ailleurs était cor anglais, Malgloire que je connais bien, puisque je connaissais bien, malheureusement il nous a quitté l'année dernière puisqu'il était avignonnais. Et on avait fait nos études ensemble au lycée Mistral, donc on avait gardé une proximité. Et c'est avec lui que j'ai ouvert la maison, d'ailleurs, au baroque, avec le premier baroque qu'on avait monté, qui était Montezuma de Vivaldi.
Ouais. Mais c'est marrant, parce que tout ce que vous nous racontez là, ça montre bien que la fonction de l'opéra, enfin Avignon en tout cas, elle a changé dans les années, entre les années 70 et les années 90. C'est devenu une maison qui accueille finalement énormément de genres
de musicaux différents. On faisait à peu près, on est arrivé à faire entre 100 et 120 représentations par an, ce qui est quand même, on approchait les 100 000 spectateurs. Notre logo, c'était un peu notre définition, c'était faire autant de spectateurs à l'opéra l'hiver que l'été que le festival n'en faisait l'été.
Parmi les chanteuses que vous avez trouvées, sur lesquelles vous avez mis la main très très tôt, Sophie Koch, qui
a fait ses débuts à Avignon en opérette.
Ouais.
Puisque le premier rôle qu'elle a chanté, c'était Mettez-la dans la vie parisienne. Après, les choses ont évolué. Comme Karine Day, d'ailleurs, le premier rôle qu'elle a fait, c'était Barbe Bleue dans Offenbach, Boulotte. Et elle avait comme partenaire Florian Laconi aussi, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et on a gardé de très belles relations. On avait fait des concerts avec elle, avec François-Frédéric Guy. Donc c'est une grande amitié aussi, comme celle que je peux avoir avec Karine Day.
Et c'est pas quelqu'un, Sophie Koch, qui a des problèmes de solfège, elle?
Ah, pas du tout.
Pas du tout, hein.
Mais je dis pas que Ludovic en a maintenant. Hein, je pense que ça s'est réglé quand même.
Oh,
C'est Sophie Coche qu'on entendait ici chanter Charlotte dans Werther de Jules Massenet, là sous la direction d'Antonio Pappano. Raymond Dufaux à l'Opéra d'Avignon, il y a eu, on l'a dit, 40 ans que vous y avez passé, avec des éclipses quand même, une en particulier en 85, vous avez été débarqué tout d'un coup, faut que vous me racontiez ça, parce que c'est la vie de l'Opéra telle qu'elle existe de l'intérieur.
Ah ben exactement, oui, c'est ce que c'est, de toute façon je vois pas pourquoi on l'effacerait. Oui, c'est vrai que bon, les relations étaient un peu compliquées avec la nouvelle municipalité. Je recevais des lettres de l'adjointe à la culture qui me disaient oui, là, plutôt que tel titre, il faudrait faire tel titre. On revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la responsabilité et la confiance qu'on doit faire à un directeur. Alors, c'est vrai que j'avais fait une conférence de presse auquel j'avais un peu provoqué, par laquelle j'avais un peu provoqué les choses, parce qu'elle avait un peu confondu l'adjointe à l'époque, Puccini et Verdi, donc je m'étais moqué d'elle un peu publiquement. Je pense qu'elle l'a pas très bien ressenti. Et le surlendemain, j'ai reçu un constat d'huissier demandant à 11h du matin de quitter mon bureau à 14h. On était en répétition d'une production qui ouvrait la saison de Carmen avec notamment Teresa Berganza et Barbara Hendricks. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et dans le même temps, c'est à ce moment-là que j'ai, pendant 3 ans, assumé la direction du CNIPAL à Marseille, qui m'a donné une autre approche d'ailleurs du métier que je faisais, parce que c'était évidemment beaucoup plus orienté vers la pédagogie. Ça m'a permis aussi de découvrir le monde des jeunes chanteurs, le monde de l'enseignement, et donc ça a été un moment également très très précieux et très constructif pour moi.
Mais comment vous êtes revenu du coup 3 ans après, à l'Opéra d'Avignon?
Voilà.
Ça s'est fait comment?
Ça s'est fait comment? C'est 3 ans après, donc il y a un candidat qui s'est présenté, qui s'appelle Guy Ravier, avec qui j'étais assez lié, même si je ne me suis jamais investi en politique, comme je le disais la semaine dernière. Et je m'étais présenté pour des raisons extrêmement précises par rapport à ce qui était advenu, et surtout l'attitude que le nouveau maire avait eue par rapport à mon père, qui n'avait pas été du tout correcte, pour ne pas dire plus. Donc j'avais décidé de soutenir la liste de l'intéressé en dernière position, c'est-à-dire évidemment avec la certitude de ne pas être élu, parce qu'il m'avait même proposé de prendre à l'époque la délégation de la culture, ce que je n'avais pas voulu. J'avais préféré donc retrouver la direction de l'Opéra d'Avignon, ce qui s'est fait. Donc voilà, ça fait partie des choses de la politique, des côtés un peu moins favorables, un peu moins positifs de ce qu'est la politique.
Ouais, et puis des mésaventures de ce que c'est que la direction d'un opéra.
Exactement. Ouais. Alors, on le disait tout à l'heure que c'est assez de manière très lié à la politique, mais il est évident qu'on est forcément très lié. Même si on n'en fait pas soi, même si on a le devoir, je pense, de ne pas en faire publiquement soi-même quand on a ce genre de fonction.
On va fermer cette émission, Raymond Dufaux, avec Karine Dey, qu'on va entendre justement dans la musique de Rossini, l'une de celles que vous avez fait beaucoup travailler.
Oui.
Dans quel rôle d'ailleurs? Qu'est-ce qu'elle a pris comme rôle?
Plein de choses. En dehors de Barbe Bleue, là, dans Boulotte, dont je parlais tout à l'heure, elle a fait sa première, je crois, seule Preziosilla dans La Force du Destin. Parce que quand j'avais téléphoné à son agent, je lui ai dit, je voudrais lui donner Preziosilla. Et l'agent m'avait dit, quelle drôle d'idée. Ben, j'ai dit, je pense que ça peut être une bonne. Et elle avait été assez formidable. Et puis, on a vraiment créé des liens d'amitié très proches. Parce que c'est une fille vraiment formidable. Comme on a créé des liens avec Béatrice Soria-Monzon, dont on n'en a pas parlé, mais qui a fait aussi plein de choses, plein de prises de rôle. Sa première Tosca, puisque c'était ses départs en soprane, parce que bon, on avait fait beaucoup de choses ensemble, aussi bien à Orange qu'à Avignon. Et un jour, quand on parlait, presque simultanément, on a parlé de Tosca. Et je lui dis, tu sais, la voix évolue vraiment énormément vers la tessiture de soprano, un peu comme c'est le cas de Karine Dey d'ailleurs à l'heure actuelle. Et je lui dis, tu sais, il y a un rôle dans lequel je te vois, c'est celui de Tosca. Elle me dit, ben c'est un rôle que je rêverais aussi de chanter, mais personne ne me le propose parce que bon, je suis mezzo pour le roman, etc. Donc on était convenus. Elle m'a dit, ce que je te propose, c'est de travailler la partition. Tu m'entends quand je me sentirai que je serai prête et tu me diras vraiment les yeux dans les yeux, en tête à tête, ce que tu en penses. Donc c'est ce qui a été fait. Je l'avais entendu à Bastille dans un studio. J'avais trouvé que c'était très bien et donc on a monté cette Tosca ensemble qu'elle a rechanté ensuite à la Scala, au Covent Garden, à Bastille dans la production de Pierre Audi. Et puis maintenant, elle aborde pratiquement tous les rôles de grands soprans dramatiques. Comme et là, Macbeth et d'autres, Gioconda.
Et là, c'est donc Karine Dey qu'on entend. Merci Raymond Dufaux.
Merci à vous. Yeah.
Karine Day qui chantait ici la musique de Rossini avec à ses côtés les Forces Majeures et Raphaël Merlin. Nous étions ce matin avec Maud Nourry, Antoine Courtin et Manuel Couturier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le troisième épisode de notre mémoire d'opéra consacré à Raymond Dufau, La Folie Corégie. Il est midi sur votre antenne préférée, France Musique bien sûr. Voici Nathalie Moller, une heure pour danser.
À réécouter sur francemusique.fr.